L'accent des autres, avec les médias francophones publics.
Bonjour et bienvenue, voici l'actualité de la semaine avec les partenaires des médias francophones publics, Radio-Canada, RFI, la radio-télévision suisse, ici et la RTBF. Et on reparle encore aujourd'hui des suites de la guerre en Ukraine avec notamment un sommet européen cette semaine à Bruxelles en présence du président ukrainien. L'occasion d'annoncer une accélération des dépenses européennes en matière de défense. L'occasion aussi, Jacques Remers, d'un premier échange entre Volodymyr Zelensky et le premier ministre belge Bart De Wever.
Oui, c'était la première rencontre physique entre les deux dirigeants. La Belgique a réitéré son soutien à l'Ukraine, aussi par la voix du roi Philippe qui s'est dit impressionné par le président ukrainien.
Le président français était à Bruxelles ce jeudi à l'occasion de ce sommet européen et la veille, il s'est exprimé à la télévision. Il faudra faire des efforts dans un monde en danger, affirme Emmanuel Macron. Vous entendrez comment ce discours a été perçu en France. En Suisse aussi, le revirement américain inquiète. Pierre Anchoffat, les doutes s'expriment sur la fiabilité de la nouvelle administration en matière de défense.
Il y a 3 ans, notre pays a en effet signé un contrat à 6 milliards de francs pour l'acquisition de 36 appareils F-35. Seront-ils vraiment livrés et surtout à quel prix? Les parlementaires sont perplexes.
Les suites également de la guerre commerciale déclarée par le président Trump, le président américain qui a lancé les hostilités en début de semaine avant de rétropédaler en partie. Nadim Mbarak, il a imposé des tarifs douaniers au Canada.
Mais la riposte d'Ottawa ne s'est pas fait attendre.
Enfin, nous reviendrons aussi sur ce procès hors norme. Il s'est ouvert mardi en Tunisie. Le procès Nicolas Sûr de dizaines de personnalités accusées de complot contre l'État.
Pour la défense, c'est une mascarade destinée à éliminer toute voix critique.
Et voilà pour les titres de cette semaine. Un accueil chaleureux donc réservé à Volodymyr Zelensky à Bruxelles à l'occasion d'un sommet européen exceptionnel consacré à la défense. Le président ukrainien a notamment rencontré le premier ministre belge, mais également le roi Philippe, Jacques.
Oui, et de toutes parts, le président ukrainien a été accueilli chaleureusement, que ce soit par la présidente de la Commission, le président du Conseil européen ou par les autorités belges. Le roi Philippe a reçu Volodymyr Zelensky au palais. Les deux hommes se connaissent, c'est leur 3e rencontre. Nous sommes à vos côtés, nous allons vous aider avec nos collègues européens, a notamment dit le souverain belge.
Nous sommes très impressionnés en Belgique de la façon dont vous menez les discussions. De la dignité que vous avez lors de ces derniers jours et de la façon dont vous cherchez une solution pacifique pour votre pays.
For your country. Sourire et poignée de main appuyée aussi de la part du Premier ministre belge. Bart De Wever, dont c'était la première rencontre physique avec le président ukrainien après un entretien téléphonique il y a quelques jours. La Commission a présenté un plan pour réarmer l'Europe, un effort inédit dans lequel la Belgique se dit prête à s'engager.
On est un mauvais élève, on doit le reconnaître, on fait beaucoup trop peu. On n'est même plus invité à certaines tables parce qu'on est un mauvais élève. Donc je vais présenter au gouvernement aussi vite que possible des plans pour aller aux 2% de dépenses pour la défense plus vite qu'on l'avait prévu. On l'avait prévu pour 2029, mais je crains que ce sera beaucoup trop tard et qu'on s'est réveillé dans un monde où l'Europe doit malheureusement se réarmer beaucoup plus vite.
Comme ses alliés européens, le Premier ministre belge a dit ne pas pouvoir accepter que des décisions concernant l'avenir de l'Ukraine soient prises sans elle et l'Europe. Autant de rencontres au cours desquelles le président ukrainien a multiplié les remerciements.
Thank you very much.
Thank you very much, Your Majesty.
Big appreciation. We are very thankful that we are not alone.
Volodymyr Zelensky à Bruxelles donc cette semaine aux côtés aussi d'Emmanuel Macron qui a par ailleurs appelé les Français à l'engagement. Le président prévient qu'il faudra faire des efforts dans un monde en danger, dit-il. Emmanuel Macron s'est exprimé mercredi soir lors d'une allocution télévisée suivie par plus de 15 millions de Français. Alors comment a-t-elle été perçue? Comment les Français ont-ils ressenti cette allocution télévisée du chef de l'État? Agathe Mahuet a rencontré quelques Français dans les rues de Paris.
Le ton martial d'Emmanuel Macron n'a pas échappé à Joël.
Je pense que le président a eu raison de faire un petit peu peur, parce que c'est vrai que jusqu'à maintenant, on vivait un peu sur on dit « Oh, ça, c'est pas possible, une guerre, ça peut pas arriver ». Mais finalement, quand on voit qu'elle est aux portes de l'Europe, falloir faire des choix aussi, parce qu'il va falloir sûrement réarmer la France beaucoup plus qu'elle ne l'est à l'heure actuelle. Remonter des usines, refaire tout ça, ce n'est pas du jour au lendemain. Mais il faut s'y préparer.
Se préparer aussi à entrer dans une nouvelle ère, dit le président, face à la menace russe, Thierry Valide.
C'est vrai qu'on a vécu une époque dorée, de tranquillité, d'absence de guerre. Et il faut absolument qu'on fasse l'Europe fédérale. Il a raison quand il parle de parapluie nucléaire étendue à l'Europe. Où est-ce qu'il va s'arrêter, Poutine ?
Mais ce que dit le chef de l'État manque de concret pour Laurence.
Il est toujours flou. Hein. On avait besoin d'être rassurés et d'avoir des choses plus palpables, plus concrètes. Quoi. Il a besoin de nous comment ? De notre engagement. Quoi. C'est-à-dire qu'il a besoin de notre soutien. Pourquoi faire ? Mais qu'il nous le dise. Hein ? En fait, c'est quoi qu'il nous attend en vérité ?
Notre génération ne touchera plus les dividendes de la paix, a conclu Emmanuel Macron.
Mais vous pensez que c'est recevable pour la personne lambda ? Nous ne toucherons pas aux dividendes de... Là, on voit vraiment qu'il n'est pas près du peuple, quoi.
Nous ne sommes pas des diplomates, résume Laurence. Il faut nous dire les choses plus clairement.
Agathe Mahuet pour Ici Paris. À propos de défense encore, des parlementaires suisses s'interrogent désormais sur le F-35 commandé aux Américains il y a 3 ans. Ces 36 avions de combat sont censés être livrés aux forces aériennes helvétiques à partir de 2027, Pierre-Anne.
Oui, censé, vous dites juste, Olivier, car dans les travées du Parlement, on s'inquiète du respect par la nouvelle administration américaine des contrats signés, notamment sur la question du prix qui pourrait dépasser les 6 milliards de francs suisses négociés. Ce pourrait être 1 milliard de plus selon l'enquête d'un grand média alémanique. Dans ce contexte d'incertitude à Washington, la gauche souhaite tirer la prise pour envisager une solution européenne. L'écologiste Fabien Fiva.
Aujourd'hui, les Européens veulent s'émanciper du grand frère américain en créant une défense commune. La Suisse pourrait s'intégrer dans cette architecture-là.
Bien qu'inquiet de la tournure des événements outre-Atlantique, le vice-président du centre, Charles Julliard, estime qu'on n'en est pas là.
Moi, j'ai un peu l'impression que M. Trump fait beaucoup de gesticulations actuellement. Nous n'avons aucune information concrète qui nous permettrait de dire qu'il faut changer notre fusil d'épaule. Et on a encore un petit peu de temps jusqu'à la livraison de ces avions pour voir ce qu'il en sera.
L'UDC, Thomas Hurter, est lui-même pilote de chasse. Pour lui, le Rafale français ne serait pas une solution car la technologie embarquée est également made in USA. Pour se dégager de la dépendance américaine, l'alternative n'est juste pas imaginable selon lui.
Si on veut changer, il faut aller chez les Russes parce que là, il y a complètement un autre système, un autre système politique aussi. Et puis ça, c'est pas une option.
Vous l'aurez compris, la majorité de centre-droit n'est pas encore prête à remettre en cause le choix du F-35, même si des doutes sur la fiabilité des États-Unis s'expriment ouvertement, à tel point que la Chambre du peuple a voté une résolution pour encourager le Conseil fédéral à intensifier la coopération avec l'Europe en matière de sécurité, un simple signal politique à l'adresse d'un gouvernement très silencieux jusqu'ici sur la nouvelle donne géostratégique.
Et on notera que la Belgique a aussi commandé une trentaine de F-35 aux États-Unis. La livraison des premiers appareils sur le sol belge est en principe attendue à l'automne prochain.
L'accent des autres.
La guerre commerciale a été déclarée dans la nuit de lundi à mardi. Donald Trump en a rajouté une couche sur le plan économique cette fois. Avant de faire une petite marche arrière, on va y revenir dans quelques instants avec vous, Onadi. Mais d'abord, premier acte donc en début de semaine, des droits de douane de 25% sur l'ensemble des produits canadiens.
Avec ses droits de douane, la Maison-Blanche a dit vouloir continuer à mettre la pression sur le Canada qui, selon le président Trump, n'en fait pas assez pour combattre les flux transfrontaliers de migrants et la soi-disant invasion de fentanyl sur le marché américain. Il faut savoir que moins d'1% du fentanyl intercepté à la frontière américaine provient du Canada.
Alors Nadi, comment a réagi le gouvernement canadien ?
Eh bien, la riposte du Canada a été immédiate avec une première vague de contre-tarifs touchant déjà l'équivalent de 30 milliards de dollars de marchandises américaines. Quelques heures après le déclenchement de cette guerre commerciale, le Premier ministre Justin Trudeau a tenu une conférence de presse et s'est notamment adressé directement et franchement à Donald Trump.
Donald, even though you're a very smart guy, this is a very dumb thing to do.
Vous êtes intelligent, a-t-il dit à Donald Trump, mais ces tarifs, c'est vraiment stupide. Justin Trudeau croit aussi que la question du fentanyl intercepté à la frontière n'est qu'un prétexte de la part du chef de la Maison-Blanche.
La seule clarté, c'est ce qu'il a dit à multiples reprises, que son but, c'est de faire écrouler l'économie canadienne pour ensuite pouvoir parler d'annexation. C'est ce qu'il veut.
Ottawa a par ailleurs officiellement déposé une plainte devant l'Organisation mondiale du commerce pour dénoncer ses droits de douane de la part de Washington.
Alors, je l'évoquais il y a un instant, Nadi, cette guerre tarifaire se fissure déjà avec un premier rétropédalage côté américain.
Oui, puisque Donald Trump a reculé jeudi et annoncé une exemption de droits de douane jusqu'au 2 avril pour les produits canadiens couverts par l'entente de libre-échange renégociée lors de son premier mandat. En échange, Ottawa repousse l'application de sa deuxième vague de tarifs sur 125 milliards de dollars de produits américains prévus dans 3 semaines. Il s'agit du deuxième report d'un mois annoncé par le président américain, puisqu'il avait déjà mis sur pause mercredi et pour un mois l'imposition des tarifs dans le secteur de l'automobile après des discussions avec les géants Ford, General Motors et Stellantis. Mais des sursis ne seront pas suffisants, comme l'explique la ministre des Affaires étrangères, Mélanie Joly.
Nous n'allons pas négocier contre nos propres intérêts. Et ça, je voulais faire en sorte que ça soit clair pour tous ceux et celles qui nous écoutent, parce que c'est pas vrai qu'on va vivre ce psychodrame à chaque 30 jours, et c'est pas vrai qu'on va juste négocier de pause en pause.
En attendant, le premier ministre Trudeau prévient les Canadiens que le conflit va durer encore un bon moment. Il dit s'attendre à une guerre commerciale de longue haleine avec le président Trump.
Enfin, c'est un procès inédit par son ampleur et par l'identité des accusés. Il s'est ouvert mardi à Tunis. Ce procès, c'est celui de 40 responsables politiques, journalistes et écrivains. Nicolas, ils sont tous poursuivis pour complot contre l'État.
Plusieurs des accusés avaient été interpellés lors d'un coup de filet dans les rangs de l'opposition en 2023. Le président Kais Saied les avait alors qualifiés de terroristes. Certains sont en détention, d'autres comparaissent libres, d'autres encore sont en exil. Tous sont poursuivis pour complot contre la sûreté intérieure et extérieure de l'État et adhésion à un groupe terroriste, le tout sur la foi de 2 témoignages anonymes. On reproche aux accusés d'avoir eu des contacts jugés suspects avec des diplomates étrangers, dont l'ancien ambassadeur de France, diplomates qui n'ont pas été interrogés durant la procédure.
En revanche, du côté de la défense, Nicolas, on dénonce un dossier totalement vide.
Oui, les avocats dénoncent une parodie de justice. S'il y a complot dans cette affaire, disent-ils, c'est un complot du pouvoir contre l'opposition et contre toute voix dissidente. Mardi, l'audience s'est ouverte en l'absence des accusés emprisonnés. Les autorités judiciaires avaient décidé qu'ils devaient comparaître par visioconférence. Le Haut Commissariat de l'ONU aux droits de l'homme a dénoncé la persécution des opposants en Tunisie. Des critiques rejetées par Tunis, qui a fait part de sa profonde stupéfaction devant ses commentaires.
Et l'audience doit reprendre le 11 avril prochain. Voilà, c'est avec Nicolas Sûr et RFI qu'on va se quitter cette semaine. Merci d'avoir été là. L'accent des autres revient bien sûr dans 8 jours, même heure, même endroit. Excellente fin de semaine.